Shostakovich, Staline, le duel. Chaque jour est menacé. Chaque nuit est sans doute la dernière chez soi. Ces coups dans la musique de Shostakovich, ce sont ceux que tous les artistes ont l'angoisse d'entendre sur leur porte, dans le silence de la nuit, quand le KGB surgit à l'improviste. C'est alors la mort ou le goulag. Shostakovich a préparé sa valise. Elle est sous son lit. Un jour sans doute, il faudra suivre. Celui que l'on nomme le petit père des peuples, mais dont le nom Staline signifie « homme d'acier », n'hésite pas à encenser un jour, puis condamner le lendemain l'artiste qui n'est pas dans la ligne du parti. Pendant 20 ans, la vie du compositeur sera entre les mains de Joseph Staline, qui tour à tour lui rendit hommage ou menaça de détruire sa carrière. Il s'ensuivra un véritable jeu du chat et de la souris. Staline surveille de près la vie artistique. Certes, décrit comme un boucher sanguinaire, il n'en était pas moins cultivé. Il a lu Zola et apprécie la musique. Et ses goûts personnels sont typiques de sa classe sociale et de sa génération. Il fréquente le Bolchoï pour assister aux représentations des opéras classiques du XIXe siècle, comme Aïda de Verdi ou Eugène Onéguine de Tchaïkovski. C'est justement suite à une soirée au Bolchoï que le terrible duel entre Shostakovich et Staline s'instaure le 26 janvier 1936. C'est Andrei Djanov, bras droit de Staline, qui encadre l'art soviétique. C'est lui qui donne les directives du réalisme socialiste. Aussi, lorsque Staline découvre en compagnie de Djanov l'opéra de Shostakovich, Lady Macbeth du district de Psensk, en cette soirée d'hiver au Bolchoï, il est furieux et il quitte l'opéra avant même sa fin. En bon terme jusque-là avec Staline, c'en est fini d'une relative quiétude pour Shostakovich. Outre son sujet qui choque les mœurs de l'époque, l'opéra contient plusieurs scènes sensuelles et quelque peu osées, soutenues par une musique suggestive. Le public et la critique retiennent toute la puissance dramatique, mais le dictateur, lui, déteste tout type d'affichage de sentiments. Deux jours plus tard, un article paraît dans la Pravda. Bien qu'anonyme, tout le monde a compris. C'est Staline qui signe. On joue ici avec l'hermétisme, un jeu qui pourrait mal finir, peut-on lire. Si Staline attache une telle importance aux arts, c'est parce que la culture et la propagande forment l'un des trois départements du comité central dont il prend la tête en 1934. L'art est une arme de propagande. L'été 1940, Shostakovich compose son quintette pour piano et cordes. Lors de sa création, le 23 novembre de cette même année, Shostakovich est au piano. Il se rachète. On lui décerne alors le prix Staline de première classe. C'est la plus haute distinction artistique en URSS. Mais l'ombre du nazisme menace l'Ouest. En dépit du pacte germano-soviétique signé en 1939, Hitler s'apprête à envahir l'URSS et à rayer de la carte la ville de Leningrad, berceau du bolchevisme. L'opération Barbarossa a lieu le 22 juin 1941. C'est dans ce contexte que Chostakovitch débute la composition de la 7e symphonie qu'il dédie officiellement à notre combat contre le fascisme et à ma ville Leningrad. Véritable hymne à la résistance face à la barbarie, l'œuvre fascina le public, qui dès sa représentation, malgré l'alerte aérienne, ne bougea pas. Le concert retransmis à la radio dans toute l'URSS sonna comme un cri de rassemblement, mais aussi de douleur, qui toucha immédiatement tous les publics. Chostakovitch parle au peuple. C'est aussi la 8e symphonie qui va jaillir de la détresse du compositeur en ce temps de guerre. Le 8 novembre 1943 à Moscou, il témoigne. J'ai voulu recréer le climat intérieur de l'être humain assourdi par le gigantesque marteau de la guerre. Mais la colère de Staline gronde. Il sent que les milieux artistiques profitent de la guerre pour s'exprimer. La fin de la guerre sonne l'heure des règlements de comptes et de la remise au pas de l'intelligentsia soviétique. Commence alors une lente agonie pour Chostakovitch. La 9e symphonie, qui aurait dû célébrer la victoire de l'URSS dans un esprit aussi grandiose que l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, ne répond pas aux attentes de Staline. Son style léger et badin est très mal reçu. Alors, en 1948, sur le nouveau rapport Jdanov, le nom de Chostakovitch figure au premier rang des accusés. Toutes ses œuvres sont interdites. La répression s'accélère dans toute l'URSS. On part au goulag pour un simple mot. Chostakovitch doit s'effacer. Il compose des musiques de films. Il faut survivre. Le 6 mars 1953, Staline meurt. Chostakovitch reprend sa plume symphonique et jaillit alors la 10e. Comme une volonté de crier « Tu es parti !» Je t'ai survécu, je l'ai emporté. Un véritable portrait au vitriol de Staline. De sa signature DSCH, Chostakovitch est présent dans toute son œuvre, à jamais.